Parole d'auteur. Parole d'auteur. Jeanne Vidot.
C'est l'été, la canicule nous donne un bon alibi pour nous retirer dans la fraîche pénombre d'une maison et nous évader dans les aventures d'un roman prenant l'histoire pour sujet. Et pour fuir une actualité brûlante, nous rêverons l'avenir en nous faisant tirer les cartes par une chiromancienne avertie. Et si nous recevions aujourd'hui à la fois la conteuse et la magicienne ? Bonjour Claudine Candat.
Bonjour.
Claudine Candat, nos auditeurs vous reconnaissent certainement car vous êtes venue plusieurs fois dans nos studios. Vous avez rencontré Philippe, je crois, pour Diabolo Pacte et Mon opium est dans mon cœur notamment.
Oui, bien sûr.
Je refais brièvement votre parcours, puis vous compléterez, évidemment. Germaniste de formation, traductrice, mais surtout romancière et poète. Votre inspiration vous emmène sur tous les chemins. Thriller, roman historique, humour. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble votre dernier ouvrage, Lisbonne avait raison, paru au début de l'année aux éditions du 81. Roman d'aventure, roman picaresque, roman d'apprentissage, roman à clé peut-être, à arcane sans doute. Ce livre brouille les cartes, si l'on peut dire. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu, nous dire déjà d'où vous vient ce Lisbonne avait raison ?
Alors, ça remonte très loin, en l'année 2005. Alors 2005, c'est le 250e anniversaire du tremblement de terre de Lisbonne, du 1er novembre 1755. Alors cette date, qui correspond à la fête des morts et à la Toussaint, elle a de quoi de marquer les esprits. Et dans la matinée, un matin, j'entends un sportif, champion du monde, qui dit « Voilà, cette victoire, je la dois à Dieu. » Et dans la même journée, je vois un article sur le tremblement de terre de Lisbonne. Et alors, je lis dans l'article qu'à l'époque, on est quand même au XVIIIe siècle, dans le très catholique royaume du Portugal, le pouvoir aux manettes à l'époque n'a pas cherché d'explication religieuse, mais il a fait effectuer des sondages sur la cause du séisme dans un esprit tout à fait scientifique. Alors, ces deux informations se sont percutées dans mon esprit et j'ai ressenti la nécessité d'écrire sur ce 18e siècle.
Si vous décrivez en nous parlant de cet événement, de ce choc, comme, il y a eu comme un paradoxe chez vous. Et effectivement, le 18e est peut-être la rencontre d'un certain nombre de paradoxes, ou en tout cas de chocs culturels qu'on peut d'ailleurs peut-être retrouver jusqu'à nos jours.
Oui, voilà, c'est un siècle en ébullition.
Alors, vous l'avez nommé donc « Lisbonne avait raison ».
Oui.
En quoi Lisbonne avait-il raison ?
Alors, je vais vous le dire tout à fait en vous citant le roman. Alors voilà, c'est une phrase, on la prend plus loin, parce que le 18e siècle, si le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières, le siècle où on met la raison en avant. Et là, je fais parler le futur marquis de Pombal, qui a reconstruit Lisbonne, et il dit « Si les temps futurs venaient à s'obscurcir, et même si mon nom sombrait dans l'oubli, mon œuvre pourra alors témoigner des bienfaits des Lumières. Si dans 3 siècles, il pouvait se dire « Lisbonne avait raison », alors je saurais que je ne me serais pas épuisé en vain. »
Et oui. Donc il faut, en fait, le marquis de Pombal a fait sienne la devise de Voltaire, mais à un niveau superlatif, puisqu'il a cultivé son jardin.
Et oui, il a agi, hein, il était sur le terrain, un terrain en ruine, enfin, on y reviendra.
Alors, pouvez-vous dans un premier temps nous présenter brièvement l'intrigue ?
Alors
l'intrigue, trop loin,
voilà, l'intrigue, voilà, sans dévoiler, voilà, alors c'est simplement l'histoire de Lorenzo Azzopardi, qui naît en 1738 à Gênes, dans une famille de négociants. Et à cause d'un événement dramatique que bien sûr je ne peux pas dévoiler, il est obligé de s'exiler de Gênes. Alors, il embarque dans un navire de commerce, il traverse la Méditerranée, une Méditerranée très agitée à l'époque, avec infestée de pirates. Il fait escale en Corse, une Corse qui est encore génoise. Et il débarque à Valence Il traverse l'Espagne de l'Inquisition, l'Espagne des moulins, des théâtres ambulants, et il a 12 ans quand il quitte Gênes, et en même temps il se forme dans tous les domaines, et il arrive à Lisbonne, la veille du grand tremblement de terre du 1er novembre 1755, et il va participer à la reconstruction de Lisbonne.
Pourquoi Gênes ?
Gênes, c'est un clin d'œil à Christophe Colomb.
C'est ça, c'était l'idée.
C'est Christophe Colomb, l'idée, Christophe Colomb, quand même, le découvreur, enfin, le découvreur, c'est oui. de l'Amérique.
Oui, l'aventurier, disons. Oui. Donc Lorenzo est un petit Christophe Colomb, alors, d'une
pas
certaine
exactement,
manière.
Peut-être, oui, à sa manière.
C'était aussi l'occasion de présenter une ville italienne.
Oui.
Et je ne sais pas quel est votre lien avec l'Italie. Mais...
Alors oui, alors Gênes, alors je mets les pieds tout de suite dans le plat, je ne suis jamais allée à Gênes. Je suis allée en Italie, mais pas à Gênes. Et par contre, je me suis documentée.
Ah ben, vous la décrivez fort bien.
Parce que je me suis documentée, alors à la Bibliothèque du patrimoine, à Toulouse, je me suis plongée dans un livre d'histoire écrit par un historien du 19e siècle, dans un style très limpide. Et là, on découvre Gênes. Alors Gênes, 18e siècle, bon, son surnom, c'est la Superbe, mais au 18e siècle, elle est en décadence, parce qu'elle a eu son apogée au 16e et 17e siècle. Et là, bon, elle est. Alors, c'est une ville avec des collines. On y grimpe par un entrelac de petites rues, de ruelles qu'on appelle les Carruggi.
Et donc, Lorenzo, votre héros, on verra ensuite si c'est pas un anti-héros. Lui, il est plutôt d'une famille noble. Il est bien parti dans la vie.
Il est d'une famille de négociants.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas des nobles.
C'est pas des nobles,
ce
sont des
négociants. Il y a encore plus riches qu'eux, mais il a déjà une bonne fortune, son papa.
Oui, son père est fortuné, après des revers, s'ils habitent un palais. Lorenzo, il est formé, il bénéficie de l'enseignement d'un précepteur, qui est un Français des Lumières, Maxence de Quetigny.
Qui est un clin d'œil, un des nombreux clins d'œil que vous ferez à Voltaire, je pense.
À Voltaire, à l'encyclopédie.
Et votre livre a parfois un côté encyclopédique, enfin, petite encyclopédie un peu diabolique par certains côtés.
Oui, une encyclopédie magique.
Donc nous avons Lorenzo, qui est très choyé par sa maman, dont il est, ma foi, tout à fait amoureux, hein, comme beaucoup de petits garçons. Parce qu'il n'est pas très vieux quand on fait sa connaissance.
Alors on le prend alors depuis sa naissance. Alors parce que là, bon, c'est Lisbonne, j'y reviens un peu. Lisbonne avait raison, c'est mon 7e livre. C'est mon 4e roman. Et chaque fois, je ne construis jamais de la même manière. Et là, ce roman, il est construit de façon linéaire. C'est-à-dire que Lorenzo, on le suit depuis sa naissance jusqu'à ses 20 ans.
Même si on commence par un flashback, en fait.
On commence par un prologue, voilà. Le prologue, on est dans le bain. Là, on est la veille du grand tremblement de terre de Lisbonne, à Lisbonne même.
Vous voulez nous le lire, s'il vous plaît ?
L'Incipit, je vous le lis.
Pour nous situer un petit peu l'époque, le lieu et votre style aussi.
Il est trois façons d'aborder une ville. En soi, guère différente de l'art d'accoster le territoire unique que constitue chaque personne humaine. De face, de biais ou bien de dos. C'est de cette manière que Lorenzo fit connaissance de Lisbonne. S'il était venu de l'Atlantique, la tour de Belém, dressée au milieu de l'estuaire, lui aurait signifié, du haut de ses coupoles mauresques, son arrivée imminente. Tel un nouveau-né, il aurait alors glissé sur elle, en elle, sur les eaux du Tage, le regard ébloui, livré à ses façades exubérantes, nain écrasé par les sept collines plantées d'églises et de palais. Déjà happé, avant même de poser le pied sur le pavé du Rossio, peut-être que, vaincu, sans envie de lutter, il se serait rendu à ses charmes.
Après, il s'est quand même rendu un peu à ses charmes. Mais effectivement, il l'a abordé par l'autre côté, par un autre côté. Et donc, c'est comme ça que nous rentrons dans ce roman historique. En fait, au moment où sa vie va bifurquer finalement.
Ah oui, oui, la vie d'Élise Boët, la vie même de l'Europe, hein, parce qu'il y a un immense retentissement de ce tremblement de terre. Et la vie de Lorenzo, bien sûr.
Tremblement de terre, effectivement, grand retentissement. Et aussi début d'une forme de solidarité européenne, puisqu'on a vu des secours arriver d'un peu partout.
En fait. Ah oui, oui, il y a une aide internationale qui est arrivée. On a construit des préfabriqués, on a amené de la nourriture.
Et ça, vous le décrivez oui. bien oui. Dans la oui, suite, oui. Dans la deuxième partie du livre. Donc, Lorenzo n'est pas tout seul. Il a comme... bonne gouvernante, confidente... et probablement beaucoup plus que ça, autour de lui, là, l'aide de sa chère Gelsemina. Alors, parlez-nous peut-être un petit peu de Gelsemina.
Gelsemina, alors, c'est sa jeune gouvernante. Alors, bon, il a des liens avec elle que je ne peux pas dévoiler, qu'on apprend à mesure en lisant le roman. Et c'est elle qui s'occupe de lui. Alors, parce que Lorenzo, il naît, alors, il a un frère. Et sa mère, elle a un fils aîné, son frère. Et Lorenzo est son préféré, et son frère le hait. Alors, ils se détestent, et l'ambiance dans ce palais, elle est complètement méphitique. Elle est saturée par la haine entre que lui voue son frère aîné. Et il est, en même temps, il bénéficie de l'enseignement d'un homme des Lumières, d'un précepteur français, un libertin, exilé à Gênes, Maxence de Quetigny. Et lui, il lui enseigne la géométrie, la vastitude du monde. Et Gelsemina, elle est dans un autre domaine, elle est complètement illettrée, parce que... Elle possède le don de prophétie et en plus elle se sert des tarots pour prédire l'avenir.
Donc il est entouré de, en fait, sa formation intellectuelle et d'être humain, les deux. Lui vient principalement de deux pôles presque opposés.
De deux pôles.
Un pôle rationnel, libre penseur, plutôt hostile à la religion. Et puis, sa gouvernante qui est, au contraire, plus dans le... je dirais pas dans l'irrationnel, parce qu'elle a vraiment bien les pieds sur terre aussi, mais dans un monde ésotérique,
disons. Elle est dans un monde qu'on n'est pas encore... Elle est dans un monde qu'on ne connaît pas encore, composé de phénomènes naturels qu'on n'a pas encore, que la science n'a pas encore élucidé. Voilà ce qui est dit.
Alors, oui, il y a une petite citation à ce sujet.
Voilà. Alors, dans la cosmogonie de l'enfant, Quetigny figure le soleil et Gelsemina à la lune. Il croit dur comme fer que les deux astres qui éclairent pour lui les faces diamétralement opposées de la vie ne sont pas faits pour se rencontrer et qu'ils ne font que se croiser entre les murs de la vaste demeure.
Oui, ça c'est assez, effectivement, c'est bien vu au niveau de la perception de l'enfant, finalement. L'enfant a du mal à travailler les zones de gris ou les zones de rencontre, en fait.
Oui, il croit que les deux faces, bon, qu'ils ne sont pas faits pour se rencontrer. Et c'est un enfant, enfin, c'est un enfant très seul, parce qu'il n'a pas de commerce avec les enfants de son âge.
Oui, parce qu'il n'a pas, il n'est pas entouré de cousins ou... Sa mère est florentine, donc de ce côté-là, il n'y a pas de famille. C'est vrai qu'il est principalement en compagnie d'adultes ou presque adultes.
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce personnage un peu solitaire?
Je crois... Il a un peu grandi tout seul, la graine a grandi tout seul. Enfin, après, les personnages, dans un roman, ils finissent quand même par prendre le pouvoir.
Oui. Et vous avez le sentiment qu'il a un peu pris le pouvoir?
Après, il faut qu'ils aient une certaine autonomie, pour qu'ils paraissent vivants.
D'accord. Donc voilà notre Lorenzo qui est quand même au départ soumis à pas mal de d'aléas et il est quand même très soumis aux diktats des autres. Son père d'abord, mais son père a un rôle qui est assez intéressant, ce père, parce qu'il est à la fois lointain et en même temps présent. Lorenzo n'a pas des rapports très complices avec lui, mais en revanche, son père accomplit quand même son devoir de père en lui présentant des gens qui vont lui permettre d'avancer dans la vie.
Oui, oui.
Et puis,
son père lui fait découvrir le monde du port, le monde de l'extérieur, alors que sa mère est cantonnée dans le palais.
Et le monde des commerçants, et aussi une certaine approche tolérante qui va aussi aider Lorenzo dans ses pérégrinations. Puisque, ça, je ne pense pas qu'on spoile grand-chose en disant que l'associé du père de Lorenzo est un commerçant juif,
oui,
qui fait un poste important dans la société génoise. Et vous décrivez bien aussi tous ces échanges.
Oui, toute cette transformation, parce que l'un, le fils, le plus jeune fils de cette famille juive, de cette famille de négociants, il se convertit au protestantisme à Londres.
Oui, parce que ce fils a une importance.
Ah oui, il fait partie des personnes qui forment l'esprit de Lorenzo.
Et de manière plutôt positive, globalement. Même s'il lui a peut-être joué un mauvais tour, mais.
Qu'on ne peut pas dévoiler.
Mais il y a quand même, effectivement, c'est là aussi un personnage positif. Et vous décrivez justement un petit peu la situation des Juifs à Gênes. Dans la mesure où ils devaient porter un chapeau jaune, par exemple.
Oui, oui.
Oui,
là, j'y fais brièvement, très brièvement allusion.
Donc, voilà Lorenzo qui, contraint et forcé quand même, est amené à partir de Gênes et en direction de l'Espagne. Mais au début, il ne sait pas trop.
Enfin, au début, il croit qu'il va aller à Lisbonne, mais le voyage est quand même très aléatoire.
Et oui, et donc nous allons le retrouver bientôt en Espagne. En Espagne, où nous allons peut-être partir nous aussi avec la musique de Manuel de Falla. Dans une version qui est jouée ici par Paco de Lucía.
Thank you.
Parole d'auteur.
Après cette écoute de La Vida Breve de Manuel de Falla, interprétée par Paco de Lucía, nous retrouvons Claudine Canda pour son roman « Lisbonne avait raison ». Et elle va nous parler un petit peu du rôle des tarots dans cette histoire. Je vous ai parlé des cartes au début de l'émission et c'est peut-être le moment d'en tirer quelques-unes.
Alors, allez-y. Les tarots, Gelsamina, elle est douée du don de prophétie et elle lit l'avenir dans les tarots. D'ailleurs, elle dit à Lorenzo, voilà le jeu de la vie et de la mort. Lorenzo, regarde bien. Dans ton existence, tu devras parcourir les 22 étapes de la course. Alors, les 22 étapes, ce sont les 22 arcanes du tarot divinatoire. Alors, pourquoi j'ai choisi le tarot? Alors, quand j'écrivais ce roman, qui est un roman d'aventure historique, d'apprentissage, je lis chaque fois que j'écris quelque chose, ce qui se rapproche des auteurs qui ont écrit sur ce thème, et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Je ne voudrais pas écrire un roman qui a déjà été écrit. Jean-Paul Delfino, qui est un spécialiste du Portugal et du Brésil, je me suis dit, je vais y mettre ma touche à moi. Et là, j'ai mis les tarots. Alors, les tarots, c'est pas un hasard. Hein. Moi, je suis fille, arrière-petite fille de médium, petite fille de voyante. Ma grand-mère, elle tirait les cartes. Pas avec les tarots, mais avec un jeu ordinaire. Et ma mère était médium. Donc là, j'ai replongé dans mon univers. Et en effet, les lames du tarot divinatoire vont jalonner et même s'incarner sur la route de Lorenzo.
Oui, il a des visions de temps en temps. Les cartes lui apparaissent finalement. Le réel, comment se superpose à l'image de la carte.
Mais hein. la carte qui se soulève sur la table. Moi, je l'ai vue sur la table de ma grand-mère.
Ah oui.
Là, je ne l'ai pas inventée.
D'accord. Donc, quand votre grand-mère posait les cartes,
et une fois, oui, ça, c'est arrivé qu'une carte. Oui, j'ai vu la carte comme ça, se soulève toute seule.
D'accord, donc Gelsamina doit beaucoup à votre grand-mère alors, par certains côtés. D'accord, et donc ces cartes vont donner aussi un côté un peu ésotérique et onirique à votre roman, puisqu'elles apparaissent toujours à des moments particuliers dans la vie de Lorenzo, et elles lui permettent de donner un sens à ce qu'il vit finalement, parce qu'il lui arrive des aventures qui ne sont pas toujours... limpide. Et donc le voilà qui est sur son bateau, croyant partir pour une direction qui n'est pas la sienne, et il va s'enfuir de ce bateau. Enfin, après une étape en Corse où il va apprendre un certain nombre de choses, en particulier sur le cynisme de un certain cynisme masculin, disons. Il va arriver en Espagne. Et là, donc, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'il va vivre dans ce pays.
Alors l'Espagne, il y reste longtemps. Il y reste 5 ans. Alors il part de Gênes, il a 12 ans. Donc là, il est en pleine formation. Il doit se former dans tous les domaines. Dans tous les domaines, sentimental, sexuel, le domaine du métier. Alors, parce qu'il arrive, c'est un enfant qui est seul, il vient d'une famille de négociants, là il se retrouve quand même pauvre. Il se retrouve alors avec une besace, et une besace, qu'est-ce qu'elle contient cette besace? Elle contient une lettre de recommandation pour un négociant luthérien allemand de Lisbonne, et une encyclopédie qu'a écrit son précepteur français, Maxence de Quetigny.
Ce précepteur a passé effectivement beaucoup de temps à écrire, quand il était au service de la maman de Lorenzo, un livre qui est explicitement fait pour lui. D'ailleurs, on le verra au cours du livre.
Il va jouer un rôle important dans le roman.
C'est un livre un peu magique. Et Donc effectivement, c'est un bagage, c'est un petit peu, là on est presque dans l'univers du conte finalement, puisque il se retrouve avec pas grand-chose et quelques accessoires qui a priori ne peuvent pas l'aider directement finalement. En particulier, et c'est un petit peu effectivement, on est dans une partie là qui est presque comme le conte. Il y a le livre dont il ne sait pas très bien quel usage faire, puis il va rencontrer une chienne. Et cette chienne va l'amener vers, va l'aider à rencontrer, déjà va lui sauver la vie, et puis l'aider peut-être aussi à la suite de ses aventures.
Oui, c'est-à-dire la suite de ses aventures. Là, on est dans l'Espagne. Il va, la première étape qu'il fera, ça sera dans un moulin, tenu par une maîtresse femme qui a deux filles. Alors le moulin, bon, c'est un clin d'œil à Cervantes, à Don Quichotte. Mais pas seulement, ce moulin, cette machine fait partie de la révolution industrielle du Moyen-Âge, c'est ce qui a permis de dégager de l'énergie et du temps, au lieu de piler pendant des heures les céréales avec un pilon. Et,
effectivement, Lorenzo, là, va s'apercevoir, va commencer à grandir aussi. Oui. Il va s'apercevoir qu'il peut aider ces femmes et qu'il peut améliorer le mécanisme moulin. Et il va se découvrir un petit peu une vocation d'ingénieur, en tout cas de constructeur. Et quelque part, c'est donc ces années d'apprentissage, finalement.
Oui.
Il apprend un métier,
il veut le perfectionner. Et ce moulin, voilà, il est dans l'esprit aussi de cette révolution industrielle qui va naître au XVIIIe siècle.
Et donc là, vous avez quelques pages assez saisissantes, en effet, où on peut constater la différence entre les pauvres paysans qui sont vraiment attachés à la survie sur leurs terres misérables, et qui envie la position de relative aisance de la meunière qui bénéficie de progrès techniques finalement grâce à son moulin et grâce à Lorenzo, à l'aide de Lorenzo. Vous souhaitiez nous lire un morceau de ce moment
peut-être sur la moulinera peut-être,
hein, allez-y
sur... À Gelsamina, parce qu'il n'oublie jamais sa chère Gelsamina. Il se retrouve tout seul, hein, là, elle n'est plus là, mais il ne peut pas l'oublier. Alors il soupire en réalisant que Gelsamina elle-même aurait conçu quelque admiration à l'égard de Essa Mujer, fière et vaillante, à l'image de cette terre de Castille, glacée l'hiver, brûlante l'été, si bien qu'il fallait être rude pour survivre sous un tel climat. Défiant les écarts de température, la moulinère a porté en effet la même tenue de drap noir. À peine jetait-elle une cape de laine sur ses épaules, quand le froid mordait la peau, il va sans dire que sous la canicule, elle ne montrait ni poignet, ni cou, dût-elle suffoquer.
Oui, ça nous montre bien la posture à la fois rudimentaire, austère, pauvre, mais en même temps fière.
Elle est fière. Bon, les meunières, le meunier, on les accuse de laisser, d'escroquer ceux qui viennent porter le grain avec un double tiroir.
Oui, vous avez des petits détails que vous avez trouvés dans des livres d'histoire.
Dans la documentation.
Oui, dans votre... Donc, vous montrez bien à travers votre texte, la précarité des situations sociales, en fait, de l'époque. On est toujours à la merci d'un brigand, de pirates, de quelqu'un qui est plus haut placé que vous. Et en fait, la noblesse et la religion, et les dignitaires religieux ont tout pouvoir, surtout sur le peuple, en fait. Le peuple ou la bourgeoisie naissante. Et c'est le poids de cette noblesse et aussi de la religion telle qu'elle est représentée par l'Inquisition en Espagne à ce moment-là est Le poids est omniprésent et notre Lorenzo va y être confronté.
Il y est confronté, mais moins. Alors moi j'ai fait des études d'allemand, donc je connais bien l'Allemagne. Et quand on étudie la question, on a brûlé plus de sorcières dans le Nord, dans les pays luthériens et en France qu'en Espagne. Parce que les procédures étaient tellement, elles étaient écrites, elles étaient tellement contraintes. Et en plus, en Espagne, ils s'intéressaient beaucoup aux morisques et aux judaïsants, moins aux magiciens. Moins. Donc voilà, je suis tombée sur cette information.
Oui, donc les sorcières, finalement, partageaient leur mauvais sort avec d'autres boucs émissaires,
oui,
finalement.
Oui, oui.
Bon, je ne sais pas si sur le nombre, ça a fait une telle différence. Je ne sais pas. Est-ce que la masse des gens massacrés était plus grosse ou plus petite?
Ah oui, non, mais là, c'est clair, hein, du point de vue sorcier, on en a massacré plus dans le Nord qu'en Espagne.
C'est là où, effectivement, le caractère, on va pouvoir juger du mérite du marquis de Pombal dans la partie que vous avez consacrée à Lisbonne, puisqu'il a eu pour tâche de briser ce pouvoir religieux. Mais bon, en attendant, c'est vrai que Lorenzo doit s'échapper et il va être... faire partie d'une troupe de théâtre. Là aussi, on a un peu l'impression d'un clin d'œil.
C'est un clin d'œil, oui. C'est un clin d'œil au théâtre ambulant, à Cervantes, Lope de Vega. Alors, Lope de Vega, on le connaît, tout le monde connaît. Ce que femme veut, Dieu le veut.
Oui. Mais bon, là, en l'occurrence, ce que femme veut ne suffira pas pour Lorenzo. Parce que Lorenzo, il a grandi quand même, hein.
Ah, il grandit, oui, 5 ans, hein, c'est énorme.
5 ans, c'est énorme.
Il a 17 ans quand il arrive à Lisbonne.
Oui.
Et à l'époque, 17 ans, on n'était pas un adolescent, il n'y avait pas d'adolescence à l'époque.
Non.
On était un homme.
On était un homme et il s'est comporté en homme à plusieurs reprises. Et il s'échappe d'Espagne pour des raisons plus ou moins avouables.
Oui.
Donc, le voilà qui est bientôt parti. Et qui va donc arriver à Lisbonne. C'est peut-être le moment d'écouter notre deuxième morceau, si cela vous convient.
Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Saudade. Saudade, saudade, disse minha terra, San Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Saudade, 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 desse minha terra, San Nicolau. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, 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 desse minha terra sem enclave. Saudade, saudade.
Parole d'auteur.
Nous quittons Cesaria Evora et sa Saudade pour retrouver Claudine Canda autour de son livre « Lisbonne avait raison » aux éditions du 81. Alors, donc nous avons laissé... Lorenzo qui a quitté l'Espagne un peu de manière précipitée et il se retrouve donc à Lisbonne, qui était d'ailleurs le but en apparence initial de son voyage à Gênes, depuis Gênes. Et donc nous avons vu en début d'émission son arrivée à Lisbonne, mais nous rappelons qu'il est arrivé la veille du tremblement de terre et là, donc, le lendemain, sans que personne n'ait vu de signe annonciateur, le pire arrive. Je vous laisse la parole.
Le séisme, alors le séisme éclate. Hein, si vous voulez un peu que je rappelle un peu le séisme.
Allez-y.
Alors, le séisme, il est une force incroyable, entre 8,5 et 9 sur l'échelle de Richter. Il a duré 9 minutes. 9 minutes. Alors, 9 minutes. Il ne faut pas oublier qu'on est le jour de la Toussaint. Les bougies brûlent sur tous les oratoires. Alors, les cheminées s'effondrent. L'incendie se propage. Ça dure 9 minutes. Le peuple, hein, les survivants, ceux qui ont survécu à la terre qui s'ouvre sous leurs pas, ils cherchent leur salut sur les bords du Tage. Enfin, l'estuaire du Tage est immense, avec la tour de Belém au milieu. Et là, le peuple se réfugie sur le bord du Tage. Et là, un phénomène a lieu. L'eau reflue, c'est-à-dire que les bateaux sont à sec. On voit des coffres éventrés au fond en cale sèche. Et ensuite, un raz de marée avec des vases de 15 mètres vient submerger toute la ville basse, la Bécha.
Et donc, du coup, tous ceux qui avaient pu s'en sortir, en apparence, se sont retrouvés piégés, finalement,
et la tour de Belém n'est plus au milieu. Elle a été déplacée par le tremblement de terre.
C'est incroyable, hein, quand et on alors, voit la
détruit.
Masse...
Oui, tout est détruit. Tous les monuments du Rossio sont détruits. L'hôpital de tous les saints, le palais de l'Inquisition, les 50 000 livres de la bibliothèque ont brûlé.
Le palais royal a brûlé.
Le palais royal.
Et combien de morts ont été recensés ?
Alors, les morts, alors, on les a évalués entre 50 000. Alors là, je regarde, hein, parce que moi, je n'ai pas les chiffres dans la tête. 50 000 et 70 000, 100 000 avec les morts indirectes.
C'est énorme pour l'époque, c'est quasiment...
Oui, alors l'incendie quand même, il faut préciser qu'il a quand même duré 6 jours. Par contre, ce qui a survécu, enfin, l'aqueduc. Alors, l'aqueduc, c'est une merveille du génie civil du XVIIIe siècle. L'aqueduc a tenu debout et a permis d'alimenter Lisbonne en eau potable.
puisqu'il leur a permis finalement de survivre. Et c'est là où intervient le personnage historique dont vous nous parlez.
Alors voilà, c'est une première. Alors c'est Lisbonne avait raison, c'est mon septième livre. Et la première fois où je fais vivre des personnages historiques, c'est dans ce roman. Alors le marquis, parce qu'il y a une chose aussi, ce qui m'a marqué en 2005, quand je me suis penchée un peu sur cette question, c'est ce personnage, le futur marquis de Pombal, qui s'appelle Sébastien de Carvalho et Meio. Futur marquis de Pombal, il ne le sera qu'en 1770. Alors c'est un homme de la petite noblesse, et il n'arrive à rien, parce qu'il est de la petite noblesse, toutes les places sont prises par la haute noblesse. Mais c'est un homme extraordinaire. Il est grand, il est de grande taille. Il n'y a pas d'enregistrement, mais en fait les témoins disent qu'il a une voix merveilleuse. Il est très intelligent. Et il a l'opportunité, alors il est extraordinaire parce que là, sa première femme, quand il était très jeune, c'est une veuve qui avait 10 ans de plus que lui, il l'a enlevée. Ensuite, elle est morte de tuberculose et ensuite, il s'est remarié. Alors cette fois, sa femme, il l'a rencontrée à Vienne puisque c'est un excellent diplomate et on l'avait envoyé à Vienne pour démêler un conflit entre l'impératrice Marie-Thérèse et le pape. Il s'en est très bien sorti et il a épousé une duchesse de la haute noblesse, Léonore von Daun.
Et donc c'est un monsieur qui a du mal à s'intégrer dans une société très fermée, mais qui en même temps n'hésite pas à prendre des risques, à faire des missions compliquées.
C'est le propre de l'homme exceptionnel, de l'homme providentiel. Il faut qu'il ait des qualités au-dessus de la moyenne, au-dessus des autres, et que les circonstances soient exceptionnelles pour lui permettre de...
En l'occurrence, c'est ce qui a été le cas, puisque, ma foi, c'est lui qui va contribuer, enfin permettre... la reconstruction de Lisbonne.
Ah oui, dès le premier jour, il a agi dès le premier jour.
Et donc Lorenzo, lui, va, dans le roman, dans votre roman, Lorenzo va le seconder et s'occuper en particulier de tout ce qui est minoterie, puisqu'il a acquis une grande compétence en matière de moulin. Et donc ce personnage, c'est vrai que Lisbonne, La manière dont Lisbonne va pouvoir être construite avec cette intelligence, ce côté rationnel et cette tolérance aussi, parce qu'Pombal n'a pas cherché de bouc émissaire, il s'est au contraire dressé contre cette tentation funeste de chercher des coupables que d'autres avaient, hein, Malagrisa en particulier. Oui. Et lui, il va essayer de rationaliser au maximum tout ce qui peut être fait. Et ça va avoir un retentissement énorme. Et ça va servir d'exemple pour toute l'Europe, finalement. Donc, je sais que Voltaire a notamment fait... Référence à ce tremblement de terre dans un poème célèbre.
Ce tremblement de terre a ébranlé toute l'Europe. Physiquement, il a été ressenti quand même jusqu'au Maroc, mais ça a eu un contre-coup énorme.
Mais c'est aussi cette reconstruction rapide et uniquement par la volonté d'équipes efficaces. Ça a aussi impressionné énormément. Il y a beaucoup de personnes de l'époque qui ont été impressionnées. Et je pense que c'est peut-être aussi ça qui vous a plu, non ?
Là, je me suis documentée sur la question parce que moi, je ne le connaissais pas. J'ai lu le livre de Monsieur Poirier, Le tremblement de terre de Lisbonne. Là, si on veut se documenter, là, il explique tout. Il a été formé, l'ingénieur portugais à l'époque de génie civil, il a été formé, il avait 80 ans à l'époque, il a été formé à l'école de Vauban.
Ah oui, d'accord. C'est quel dévouement.
Oui, et alors c'était un visionnaire. Pour dire combien, à quel point le marquis de Pombal était visionnaire, quand on lui a vanté les larges avenues perpendiculaires, il a dit, mais un jour, elles seront trop étroites.
D'accord. Il avait prévu que Lisbonne allait encore grandir. Oui, c'était effectivement un visionnaire. Et Lorenzo se trouve mêlé à tout ça. Et puis il va peut-être avoir des nouvelles de son précepteur finalement.
Oui,
peut-être.
Qui sait.
Parce qu'il était en train de reconstruire quand même sa vie à Lisbonne. Pour lui, c'était sa ville Lisbonne. Donc. Et vous décrivez assez bien aussi cette atmosphère lisboète, la manière dont justement Léonore, la femme du futur marquis, est vue par la société locale. Il y a tout ce regard que les catholiques peuvent avoir, ce soupçon vis-à-vis des luthériens.
Alors c'est Mathilde. Alors Léonore, alors elle est catholique puisque l'Autriche, c'est les Habsbourg.
Excusez-moi.
Non, c'est pas du tout. Non. Faites bien de le dire. C'est Mathilde. Mathilde, alors là, bon, c'est une roturière. Il y avait à Lisbonne à l'époque une colonie, toute une colonie de négociants, de marchands luthériens. Et c'est contre eux que Malagrida, le Gabriel Malagrida, qui était jésuite à l'époque, qui voulait chasser ces luthériens de Lisbonne, qui rendait ces luthériens responsables du tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre, quand même, il a eu lieu à une date qui marque les esprits.
Oui,
enfin, le jour de la Toussaint, le jour des morts.
Oui, le Toussaint.
Il y a de quoi marquer les esprits.
Toussaint, le jour des morts, oui. On peut penser qu'effectivement, ça peut être un méga acte de terrorisme, quelque part. On pourrait l'interpréter un peu comme ça, de nos jours. Oui, je faisais une confusion avec Léonore et Mathilde, parce que Léonore aussi est étrangère.
Ça, Léonore, elle est autrichienne, elle est étrangère.
Donc,
en faisant ce roman, enfin, moi, ce qui m'a interpellée en faisant ces recherches, enfin, moi qui suis germaniste, là, j'ai écrit sur l'Europe du Sud, hein, c'est pas du tout le domaine qui m'est d'habitude... disons, entre guillemets, familier. Là, je tombe sur ce fameux Sébastien, futur marquis de Pombal. Ah, il prend une épouse à Vienne où j'ai vécu.
Mais oui. Mais je pense qu'en effet, notre Europe, elle est bien vieille, finalement. Oui. Les pays se sont développés en tant que nation, mais au niveau de la vie quotidienne des gens, surtout d'un certain milieu, le cosmopolitisme européen, il est fait depuis longtemps, finalement.
Tout à fait.
Et donc, nous allons commencer à approcher de la fin de notre émission, presque. J'ai encore quelques petites minutes pour vous demander quel est si je peux avoir vos procédés d'écriture, un petit peu, comment fonctionnez-vous ? Donc là, vous êtes beaucoup documenté, on l'a vu ensemble. Est-ce que vous lisez beaucoup ? Est-ce que vous avez des influences particulières ?
Non, mais je lis, enfin, quand j'écris quelque chose, un roman, je lis ce qui a été écrit autour de ce thème pour dire qu'est-ce que moi, je peux apporter de nouveau au sujet. Et après, qu'est-ce que je fais ? Les personnages, bon, bien sûr, les personnages, il faut qu'ils soient vivants. Donc, il faut leur donner des qualités. Il faut aussi leur donner des défauts. Parce que s'ils sont parfaits...
Lorenzo n'est pas parfait, pas, non ?
S'ils sont pas parfaits. Enfin, moi, mon domaine, c'est pas le domaine du romancier. Je pense que c'est pas le bien. C'est pas le vrai. Le vrai, c'est le domaine de l'historien. Le domaine du romancier, c'est le vraisemblable. Pour moi, le vraisemblable, c'est le vrai transfiguré par le beau.
D'accord. Et le beau ?
Le beau, c'est le style, c'est le relief des situations.
Le relief des situations, ça va être aussi peut-être le beau, c'est peut-être votre style, la manière dont le style s'adapte à votre sujet.
Alors le style, moi ce que je peux dire, moi je fais comme Flaubert, enfin je ne me prends pas pour Flaubert, mais tout ce que j'écris, je le lis, je le gueule, mais pas dans le café, pas dans la fumée, devant l'ordinateur, pour l'oreille, pour démasquer les défauts à l'oreille.
D'accord, donc vous êtes
Je le lis à voix haute.
Et les images vous viennent aussi à voix haute?
Oui, les images, oui, c'est les idées me viennent, les idées, c'est les idées et les images également.
Et
alors comment vous expliquer comment elles me viennent, ça je peux, je n'en sais rien moi-même. Elles sont là.
Peut-être que les images, oui, c'est peut-être, ou les idées, c'est peut-être le beau marin quelque part.
Ah, le beau marin, voilà, c'est un personnage,
Un petit oiseau.
Vous avez, voilà, c'est Uccello qui chante merveilleusement bien, parce que vous avez le son aussi, le chant tient une grande place.
Dans ce
vous
livre,
avez
là,
les canzones de Gênes, de Ligurie, et le chant, alors, on va voir, il y a même l'irruption d'un castrat napolitain dans la vie de Lorenzo.
Tout à fait.
On avait tout cet aspect barbare du XVIIIe siècle, quand on coupait les enfants, littéralement, pour qu'ils gardent leur timbre cristallin dans un coffre d'homme. Voilà, c'est...
Oui.
Mais le castrat, c'est pas Farinelli, hein, celui de...
Non.
Celui de Lisbonne avait raison. Et le beau marin, il chante merveilleusement bien, tant et si bien qu'il a son surnom italien, Uccello, l'oiseau.
Ah oui, d'ailleurs, il était peut-être, c'était un bateau génois, donc ça a tout à fait son sens. Et donc, est-ce que vous attelez tous les jours à un roman, à votre roman, ou est-ce que ça fait partie d'une discipline, d'autres moments?
Il faut du recul. Des fois, il faut le laisser reposer comme une pâte. Le lire comme si c'était... Alors ça, c'est difficile. Comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Pour en détecter, pour débusquer les zones de faiblesse, les défauts.
Oui, donc vous revenez souvent sur votre texte.
Oui.
Vous m'avez dit que vous avez comme ça rédigé plusieurs fois la fin.
La fin, je l'ai faite plusieurs fois.
De manière à ce qu'elle reste
l'incipit, j'ai voulu marquer les esprits avec « Il est trois façons d'aborder une ville », ça c'est la première phrase, mais la fin je l'ai refaite plusieurs fois.
Merci beaucoup Claudine Canda, je crois qu'il va être l'heure de nous quitter, il nous reste une petite minute. Avez-vous d'autres projets? Vous avez commencé un autre roman?
Pour le moment, je traduis une épopée en vers de Nicolaus Lénaud.
Ouf.
Les Albigeois.
Très bien. Donc, qui touche quand même...
Avec qui touche notre culture occitane.
Et à la fois...
Mais le poète est un post-romantique, un romantique allemand.
Très bien. Il nous reste donc à remercier Jonathan, toujours vaillant à la technique, qui supporte toutes mes petites faiblesses. Et nous rappelons le titre de votre ouvrage, donc « Lisbonne avait raison », chez Édition du 81. Très belle édition d'ailleurs.
Je voulais apporter une précision, si nous avons le temps. 81, ça n'a rien à voir avec le Tarn. L'adresse de l'éditeur, c'est 81 rue Réaumur, Paris 2e. Et c'est l'éditeur qui a publié la biographie dont a été tiré le film avec Jean Dujardin, Des rayons et des ombres. Voilà pour situer l'éditeur. Et c'est une très belle édition. Voilà, très beau travail de l'équipe éditoriale avec la couverture. Et le graphisme à l'intérieur.
Et le choix du caractère est très bien fait. Chers auditeurs, vous pouvez facilement retrouver cet entretien sur le site de Radio Présence et en podcast sur toutes les plateformes numériques. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à bientôt pour une prochaine émission.